En air de vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif. Une parole éclectique, locale, thématique, sociétale, environnementale. Lumière à l'échelle locale de l'actualité nationale, internationale.
Sur quelle place, qu'est-ce qu'on voit?
Donc nous sommes place Tourcelles, dans le centre-ville d'Évreux, un samedi matin.
Donc en fait, en gros, voilà, on se retrouve avec des petits chapiteaux, voilà, avec des exposants.
Parce que certains sont sur l'alimentation, d'autres sur l'énergie, voilà, l'autre sur l'éco-citoyenneté.
Et le commerce de proximité.
Ok, très bien.
On va aller donc les rencontrer.
Donc alors là, le premier stand qu'on découvre, c'est la transition alimentaire. Alors en fait, il dirait des sortes
de petits
sablés. Ah, c'est des boulettes de viande là. Des petits sablés, je veux dire, aux myrtilles, mais point du tout.
C'est de la viande sans viande.
C'est de la viande sans viande, alors expliquez-nous ça.
Voilà, c'est plutôt apprendre aux gens à changer leurs habitudes.
Je suis le responsable du restaurant Kili Cru à Évreux et le midi je fais la brasserie Locavore, donc ça veut dire avec des produits locaux, des produits issus du maraîchage et de l'élevage, ouais. Donc la meucola ou la limonade.
La limonade, c'est
exactement,
ça
avec toutes les fautes d'orthographe qui vont bien avec.
Absolument.
Alors en fait on me remet dans les mains un papier collectif pour une transition citoyenne.
Il y a l'aspect environnemental, mais il n'y a pas que ça.
L'idée c'est prenons part à la construction de la société de demain en donnant envie à un maximum de personnes de s'engager dans une transition écologique, sociale et humaine.
Tu veux manger bio, tu veux pas spéculer, tout ça, et ben tu prends des actions Inter de Liens et ça permet à des jeunes qui n'ont pas accès à du foncier de pouvoir s'installer.
Voilà, exactement, c'est une belle action. Enercop, qu'on avait déjà découvert.
On peut être une entreprise, proposer un modèle alternatif et en plus ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on fonctionne pas avec des subventions, quoi. Que notre coopérative propose une électricité d'origine renouvelable à 100%, donc on a des contrats avec des producteurs qui possèdent eux-mêmes leur éolienne, leur moulin à eau, leur panneau photovoltaïque, mais c'est un modèle démocratique.
C'est plus ton prénom, Bernard.
Frédéric. Bernard.
Peut-être t'as appelé Bernard.
Voilà.
Raymond.
L'avenir de l'écologie.
Plus, moi je connais bien Principe Actif parce que j'ai animé l'émission des Gitanes, Nati Écolo, le Nati Show, où je donnais déjà des recettes d'esthétique surtout. Après je faisais aussi du ménage, de la santé aussi, avec les huiles essentielles, beaucoup de remèdes de grand-mère, des plantes et tout ce qu'on trouve dans la cuisine. Le confort ça passe pas forcément par toutes les nouveautés qui sortent, les produits hors de prix, c'est du n'importe quoi.
D'accord, donc en fait pour expliquer à l'auditeur, là on est à une
herboristerie.
Herboristerie, voilà. Et donc vous pouvez vous présenter, vous appelez
Moi je m'appelle Romain.
Romain, bah enchanté. Kevin, Fred, Frédéric. Jérôme.
Fred, Jérôme.
Ouais, voilà.
C'est un peu les trois mousquetaires de...
Voilà, de la radio. C'est les JFK de la radio.
Ah ouais,
voilà. Et en fait, on est animateur sur Principe Actif et on anime une émission bimensuelle, le premier et troisième vendredi du mois. Une émission en fait qui traite d'environnement et d'écologie et on essaie d'aborder ces thèmes-là à l'échelle locale.
Donc... En fait, nous, aujourd'hui, on est là surtout sur le volet... on est surtout axé sur le volet pédagogique parce qu'il y a un lien entre la méthode de culture et les techniques de culture qu'on emploie et le raisonnement de Évreux Ville en Transition sur l'aspect de l'alimentation, des plantes pour se soigner, une volonté d'être politique et pas de faire de la politique.
Oui, le citoyen lui-même.
Reprend conscience de son état politique. Ouais. On fait un bond dans le passé, on est il y a 2000 ans en Grèce.
Tu connaissais Fred les éco-volontariats?
Non.
Non,
non plus. Non plus.
Voilà, c'est pour le citoyen qui a envie de faire un peu. C'est un peu de. C'est de l'action concrète en
fait.
En fait,
c'est ça. C'est bien beau d'être dans son, dans son chez soi. C'est bien aussi d'être dans sa radio, de trier ses déchets et tout ça. Mais après, et puis après, là, c'était vraiment du.
Parler à la radio, par contre.
Après, au niveau du gomme.
Je fais des baskets de thé.
Conique écologique, hein, je vais pas parler de la mooncup. Je vais pas le faire cette fois-ci.
Vas-y, attaque. Moi, je connais la mooncup.
Ah, tu connais la mooncup, mais pourquoi?
Parce que j'ai une femme.
Et elle me parle.
Moi, j'ai pas de femme, du coup, je connais pas la
mooncup. Et
au début, tu vois. C'est en fait ce que je
pense. Alors là, c'est
classe. C'est sérieux, Sylvie.
L'origine, je suis aide médico-psychologique. Donc, et en fait, c'est dans le cadre de mon métier que j'ai découvert les produits esthétiques bio, remèdes de grand-mère, et que du coup, j'en ai fait bénéficier aux personnes que j'accompagnais pour plus de bien-être et leur dire que des fois, prendre soin de soi, ça coûte pas très cher. Voilà, leur offrir
une possibilité. C'est un peu l'idée remèdes de grand-mère.
C'est l'idée, ouais.
Ça attise la curiosité. Donc, vraiment, l'idée, c'est qu'on peut faire nous-mêmes, chacun chez soi, des petits produits au lieu d'acheter
voilà.
Les produits industriels.
Pas besoin d'avoir fait de longues études, c'est facile et des fois il y a juste besoin aussi de demander à sa mamie qui elle aussi connaît les petits remèdes et voilà, ça se transmet, avant ça se transmettait alors, de génération en génération et maintenant du coup du fait aussi d'une société plus industrialisée en fait on perd.
Je suppose que vous avez dû faire le tri quand même dans les remèdes de grand-mère parce que bon à une certaine époque on mettait en pendentif quand même du radium parce qu'on pensait
que c'était
une pierre magique et maintenant on sait que ça va atteindre à notre santé. Il devait donc sûrement avoir des potions de grand-mère qui ne devaient pas être très bonnes. Aujourd'hui, alors vous, qu'est-ce que vous préconisez et qu'est-ce que vous apprenez aux gens en fait?
Un exemple,
ouais, par exemple.
Ok. Donc alors, indispensable, le vinaigre de cidre.
Le vinaigre pour nettoyer les carreaux, pour nettoyer l'inox, en cure aussi, par exemple, additionné à de l'eau, vous en prenez tous les matins. Ça régule en fait le pH du corps.
Pareil, le vinaigre blanc pour enlever le calcaire dans la...
Pour enlever le calcaire.
Pour un compte anti-inflammatoire, etc.
Voilà.
Non, je fais une grand-mère, mais le savon chaud tous les matins en anti-inflammatoire.
C'est vrai,
mais
ça... Ah ouais,
mais
ça, je connaissais pas ça. Le citron chaud en anti-inflammatoire. Voilà. C'est-à-dire qu'il l'applique sur ton inflammation, tu
non,
le bois.
Tu le bois.
Ah ouais.
Tu mets pas de vodka dedans.
Tu mets pas de vodka, bon, un peu de rhum alors.
C'est bon pour la peau, c'est, comme c'est aussi acide, le citron, c'est aussi pour réguler le pH en fait, du corps. Donc en fait, les deux, le vinaigre et le citron, se rapprochent quand même beaucoup. Et le vinaigre, donc, on en était les carreaux, l'inox, donc en nourriture, forcément, en cure santé. Et vous pouvez l'utiliser aussi en masque pur. Alors ça paraît, je vais me défoncer la peau et tout ça. Et non, après, moi, il y a un masque que je fais pour mes cheveux qui marche super bien si vous avez des pellicules. Et en fait, les pellicules, c'est dû à une mycose. Donc, vous prenez le jaune d'œuf, vous mettez aussi du rhum dedans. Arrêtez de le boire, utilisez-le pour prendre soin de vous. Non, mais ça fait briller les cheveux, ça l'adoucit et ça vient, en fait, le rhum vient activer la circulation aussi sanguine du cuir chevelu et du coup, ça renforce vos cheveux.
Parce que oui, moi je pensais que c'était juste des peaux mortes, donc ça correspondait à la classique. Mais en fait, c'est une mycose qui
fait
les
pellicules. C'est une mycose, voilà. Et dedans, en fait, dans ce petit mélange-là, donc jaune d'œuf, rhum, vous pouvez rajouter de l'huile aussi si vous avez les cheveux secs. Vous rajoutez
de l'huile, l'huile d'olive.
Voilà, de l'huile d'olive par exemple. Moi j'utilise l'huile d'argan ou l'huile de coco. L'huile de coco pour les cheveux secs et les cheveux normalement des personnes de couleur.
Crépus, vous voulez dire.
Occidentaux et tout ça. Voilà, crépus. Ouais. Et bah, vous rajoutez l'huile de coco, ça marche super bien. Okay. Et donc une goutte d'huile essentielle de palmarosa qui viendra justement traiter en fait la dermatose.
Alors là, je vous ai pas suivi. Une goutte de quoi?
Une goutte d'huile essentielle de palmarosa.
De palmarosa.
C'est une antifongique en fait à spectre large.
Ok, par rapport à la
mycose.
Parce
qu'à l'origine, en fait, la pellicule, c'est une mycose.
Ah bah voilà, bon voilà, j'aurais appris une chose. Vous saviez ça, les gars?
Bah, évidemment.
Ah, évidemment.
Voilà. Donc, du coup, vous appliquez ça sur cheveux secs, réparez, vous laissez poser à peu près 20 voire 30 minutes, c'est pas grave. Et quand vous allez rincer, surtout à l'eau tiède, parce que l'eau chaude, vous allez vous retrouver avec une omelette sur la tête. Bon, c'est pas le but. Et en fait, ça va en même temps laver votre cheveu. Et il n'y a pas forcément besoin de faire un shampoing derrière.
Ok, d'accord.
Et là, par contre, de cette façon-là, ça marche bien.
Et ça, on le fait pas tous les jours, je suppose. C'est une fois par semaine, une fois par mois
Ou
Moi, je le fais une fois par semaine.
Une fois par semaine.
Bah, okay. En fait, normalement, on se lave les cheveux au moins deux fois par semaine. Ça sert à rien de se les laver plus si on a des bons shampoings. Donc, moi, je le fais une fois par semaine pour traiter mon cheveu.
Okay.
Et le jaune d'œuf, du coup, il vient aussi nourrir et gainer le cheveu.
Ok, pour avoir un meilleur cheveu. Parce qu'en fait, ouais, voilà, vous avez rien à vendre, c'est vraiment... Vous...
Moi, je donne.
Vous donnez les idées, en fait.
Je les donne et en plus,
pur échange,
vous pouvez repartir avec, avec un produit.
Avec du rhum,
et
de la bière.
Et puis, tiens, je me dis, comme t'es curieux, qu'est-ce que tu veux goûter? De la menthe poivrée ou de l'arbre à thé?
Goûter, comme ça, directement?
Ouais, tu goûtes. Les trois vont goûter.
Non, c'est Kevin qui goûtait.
Voilà, d'arbre à thé.
Moi, je sais que cette huile essentielle-là, j'essaie toujours de l'avoir sur moi. Donc, par exemple, le petit truc, si
t'as oublié... Mais il faut des sucres à chaque fois, sans
si
toi.
Si t'as oublié de te laver les dents, ou si t'as piqué une clé, que t'avais pas une brosse à dents, déjà, tu prends une pomme sur toi. La pomme, ça nettoie les dents. Le fait de croquer dedans, bien sûr.
Mm-hmm.
On croque dans la pomme, on mange la pomme. Et à la fin, bah, du coup, tu prends un sucre avec l'arbre à thé, t'as la bouche qui est nickel.
Et bah, je retiens les conseils, parce que moi, je suis plutôt brosse à dents aux oubliettes et énormément de café. Donc, super,
voilà.
L'arbre à thé.
Si tu veux blanchir, et bah, tu prends un citron et tu croques directement dedans. Ça va te blanchir les dents. Comme ça, le café.
Voilà, ok.
Parce que, bah, le café, d'ailleurs, c'est pareil, marc de café. Marc de café qui est utilisé par les femmes occidentales pour faire des gommages.
Donc, alors après, j'ai peut-être loupé une partie. Et on peut retrouver tous ces conseils sur un site, sur un...
Enfin, moi,
oui,
pour
à part la journée d'aujourd'hui,
j'ai pas encore fait
dans
mon
blog. Le savoir est dans les livres.
J'ai pas encore fait mon blog,
mais votre blog quand même là.
Non, ça c'est pas moi. C'est moi, je m'appelle Nati, et elle, c'est Isabelle, c'est une autre personne. Je sais pas où elle a mis son stand,
d'accord,
mais en fait, elle venait aussi présenter ce qu'elle fait.
Donc c'est vraiment un but non lucratif.
C'est vraiment. Alors, en fait, c'est pour aussi me faire connaître parce que moi, je suis AMP en fait à l'origine, comme je disais tout à l'heure, et en fait, je voudrais devenir socio-esthéticienne pour pouvoir offrir, enfin, je me ferais payer quand même, enfin, là, tout n'est pas gratuit non plus, hein, faut survivre, mais je voudrais pouvoir en fait faire de l'esthétique avec des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus, voilà, qui puissent s'offrir en fait des moments de détente, des moments de bien-être avec des choses pas chères, que ça soit à moindre coût pour eux, parce que souvent, c'est hors de prix. Moi, je vois, c'est pareil, là, enfin, actuellement, je suis au chômage, quand je vois les prix en salon esthétique, je me dis, ouais, bah, je vais me le faire moi-même, ça va me coûter moins cher en fait. Et du coup souvent en fait les personnes handicapées ou les personnes en CHRS ont souvent besoin en fait de retravailler la relation avec leur corps et ça passe par de l'esthétique. Et si on n'a pas des produits peu coûteux, en fait ils n'ont pas les moyens. Et même pour par exemple des personnes en CHRS, c'est des petites recettes pas chères, enfin qui peuvent utiliser, enfin voilà, si on leur donne un euro, voilà, tu peux t'acheter un citron.
En fait il faut connaître le savoir-faire
avec.
Parce que à mon avis les gens ils se disent j'ai un pot de sucre, j'ai ci ça, ça va être la galère pour me faire un
voilà.
truc
ouais.
C'est l'avantage du produit industriel aussi dans un beau petit pot, enfin
voilà.
un packaging quoi,
ouais.
Alors qu'en fait en connaissant les trucs et astuces,
bah, on peut faire plein de choses quoi.
Des molécules
et ça fait tellement
sans
bien
sans devenir un chimiste non plus quoi.
Non,
après il y a des choses qui peuvent être beaucoup plus complexes en fait, mais le truc là c'est vraiment de rester sur du basique et du facile.
Ouais.
Pas besoin d'avoir fait de grandes études pour savoir faire ça. Et du coup, comme je disais, pour des personnes aussi à la rue ou tout ça, des fois je pense qu'elles sont un peu perdues, je vais jamais m'en sortir, tout est cher. Regardez en fait la société de consommation, la société industrielle.
En fait, même si on est pauvre, on peut être malin et arriver
à être malin,
faire bonne figure. Quoi.
Et on peut vivre bien, surtout. En fait, on peut être pauvre, vivre bien et avoir un certain confort en fait.
Ouais, ouais.
Le confort, ça passe pas forcément par toutes les nouveautés qui sortent, les produits hors de prix, c'est du n'importe quoi.
Bah, merci de la découverte, merci beaucoup de votre accueil, et puis bonne fin de journée à vous. Voilà, un air de vie sur Principe Actif. Alors. Never do what you say, I'll never hear you, and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn it from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety.
just poked a little empty pie for the fun that people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause too free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chaste and whole, all God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn it from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety. Soft and porky, you pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. News you have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn it from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn it from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety. More than.
Qu'est-ce que vous proposez alors? En fait, vous proposez des herbes.
Voilà, bah, en fait, nous aujourd'hui, on est là surtout sur le volet. On est surtout axé sur le volet pédagogique. Parce qu'il y a un lien entre la méthode de culture et les techniques de culture qu'on emploie là-bas, à l'autre bout du département, et le raisonnement de Évreux Ville en Transition. Il y a véritablement un lien sur l'aspect de l'alimentation, des plantes pour soigner, ou toute autre forme d'utilisation qu'on peut faire des plantes, ça peut être un usage comme on appelle ça aussi ménager.
Ouais.
Bref, on dit qu'avec la puissance qu'il y a dans des plantes, les principes actifs, ça aide aussi à assainir.
Alors ça, c'est marrant, ça fait du parallèle avec le stand à côté. Là, on venait à proposer justement avec des produits, avec des citrons, avec le marc café de
oui,
se nettoyer.
Ouais,
en fait,
ouais,
c'est de retrouver en fait se servir des choses.
Exactement, voilà.
Ouais. Donc en fait, dans votre stand, on voit bien, il y a la pédagogie. En fait, il y a des schémas,
ouais,
etc.
Ouais.
C'est vraiment pour sensibiliser le badaud. Mais justement,
le commun des mortels.
Ah, le commun des mortels.
Voilà.
Y a beaucoup de gens qui viennent vous voir. Ça marche ?
Oui. Ouais. Il y a vraiment un intérêt. Ouais. De tout âge et à tous les endroits, il y a des gens qui commencent ou qui continuent à s'intéresser à ça.
Et les nouveaux qui s'intéressent, qu'est-ce qui les intéresse ? C'est se soigner de façon naturelle ?
Par exemple ?
Ouais,
parce qu'ils en ont marre aussi que d'être uniquement des patients qu'on dirige vers des structures avec un parcours coordonné, des scandales à répétition et tout ce qui va derrière aussi les lobbies de la pharmacie.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont prêtes à s'inscrire vraiment dans une démarche très longue parce que
voilà.
L'effet, je pense, de ce changement, on a les effets plus ou moins à long terme.
Oui.
Contrairement à un médicament où là, il y a l'effet.
C'est ça, où on cherche à supprimer le mal ou la douleur ou à l'amenuiser presque immédiatement. Puis moi, je pense que derrière tout ça, c'est conscient ou inconscient. conscient, mais il y a, une volonté d'être politique et de pas de faire de la politique.
Oui, le citoyen lui-même, c'est,
le citoyen reprend conscience de son état politique. Ouais. Quoi. On fait un bond dans le passé, on est il y a 2000 ans en Grèce. Quoi.
C'est ce que j'allais dire, c'est le terme grec.
Ouais, ouais. Ouais, c'est le terme grec. Ouais. Ouais. Et ça, je crois qu'il y a plein de gens qui, par des petits gestes de leur vie, reprennent...
Des VRP, des
invités. Voilà, voilà. Ils s'incorporent à ça, au fait politique.
Donc, alors, ici, donc, on est à l'association donc, Les Sauvageons. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là? Un petit exemple là, pour les auditeurs, là, quand
alors, ça, c'est
on
la...
vient à votre rencontre.
Ça, c'est la partie marchande, faut bien le dire, qui est encore une fois qui est démonstrative, mais qui n'était pas le but de la journée. Ça représente une gamme de tout ce qu'on fait, quoi. C'est un échantillonnage de tout ce qu'on fait. Ça va des herbes séchées, en passant par des aromates, en passant par des petites sucreries, des sirops qui sont à double action, c'est-à-dire gustatif et
remède. C'est quoi la tisane minute?
Voilà.
La tisane minute, c'est à la base, c'est le teriyak. C'est un vieux remède qui date de l'Égypte antique. Donc l'idée, c'est d'incorporer les plantes réduites en poudre avec du miel.
Donc là, c'est des feuilles de menthe.
Voilà, des feuilles de menthe bergamote.
Ouais. Bergamote, c'est quoi la menthe bergamote en fait?
C'est un cultivar de menthe.
Un
cultivar, c'est-à-dire c'est un hybride qu'on a fait, mais c'est pas un hybride OGM, hein, je précise.
Ouais,
hein.
Okay.
C'est un hybride, un croisement. Quoi.
Ouais, ouais, voilà, okay,
c'est
d'accord.
Un croisement de menthe. Et
avec du miel.
Donc je fais chauffer mon eau. Voilà, vous en mettez une cuillerée à café dans la tasse, vous versez l'eau bouillante dessus et vous avez un remède sucré avec des principes actifs de plantes.
Et le miel, il vient d'où?
Le miel, il vient de chez Thomas Bertoncini. Qui est apiculteur dans l'Eure à Écaclon. Écaclon dans la vallée de la Risle. Donc voilà, c'est...
Donc voilà, donc du miel
tout
local.
Tout ça, c'est lié, ouais.
Et donc tous les produits, à chaque fois, vous avez fait en fait des connexions entre des...
Le plus possible, ouais.
Ouais. Et les capes, donc les capes qu'on a beaucoup en Grèce, vous parliez de la Grèce tout à l'heure.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Alors là, je vois, il y a même des huiles...
Des huiles de massage.
Des huiles de massage, ouais.
Des huiles pour soulager tout un tas de petits bobos, ou simplement des sécheresses cutanées.
Et tout ça, ces huiles-là, c'est vous qui les faites chez vous, dans votre petit labo fait maison?
C'est ça, exactement. Voilà, tout à fait.
Et comment vous avez obtenu ces connaissances? Comment vous avez réussi à... C'est un long savoir-faire ou ça vient de peut-être de votre famille, en fait, une culture ou un échange qui s'est... comment dire
On est des curieux impénitents.
Alors, ça a commencé
autodidacte,
par vous,
c'est
ça?
Autodidacte.
Ah ouais.
Et... En fait, moi, j'ai quand même passé un diplôme d'herboristerie.
Ok, alors, j'ai un diplôme d'herboristerie. On passe ça où?
Bah oui, voilà, en principe le métier d'herboriste n'existe plus.
Ouais.
Parce que le diplôme d'herboristerie.
Vous
a
êtes
été...
une druide en fait quoi.
Une quoi?
Une druide.
Une druide, une druidesse.
Une druidesse, pardon.
Ah ouais, oh
là là, Machoum.
Achoum. Oui, il a été supprimé par le maréchal Pétain en 1944, je crois.
Des choses bien.
Non, on me l'a dit aussi, ouais. J'ai cru comprendre. Et il n'a jamais été rétabli sous la pression du lobby pharmaceutique. Mais il y a quand même 4 écoles en France qui redélivrent un diplôme, donc ils ne donnent pas le droit d'exercer en tant qu'herboriste. Donc ici, vous êtes sur un stand illégal. Mm-hmm.
Oui, en fait, c'est pas validé, oui, par les...
Okay. Voilà, non, on n'a pas le droit d'exercer en tant qu'herboriste. Mais par contre, on a le droit de passer le diplôme. Alors, ça va... Il y a des écoles qui font passer un diplôme sur 2 ans, d'autres 3. Et puis, ça donne énormément de connaissances. Moi, ça m'a permis de conforter les connaissances que j'avais sur les plantes. Et puis, comme j'ai pas le droit d'exercer le métier d'herboristerie en magasin, par exemple, je me suis dit que c'était une bonne idée de cultiver les plantes.
Mais alors, je comprends pas pourquoi on peut pas être herboriste en magasin, parce que moi, j'ai déjà vu des magasins où ils vendent des herbes.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui est interdit exactement?
Alors,
en fait, c'est de mettre votre... peut-être comme pour les médecins, mettre votre plaque disant qu'il y a une science derrière,
et que
vous pouvez pas prétendre même apporter un apport à la personne.
Exactement.
Il faut le faire.
Exactement. Il faut dire je vous vends ça, l'usage traditionnel
en
dit
fait,
que, mais moi je n'en sais rien.
En fait, ça vous oblige à le dire en off quand les clients rentrent dans le magasin.
C'est ça.
Exactement.
Okay.
Alors il faut savoir quand même qu'en France, il y a donc une pharmacopée européenne, une pharmacopée française, qui sera certainement bientôt diluée dans la pharmacopée européenne, mais bref. Et de cette pharmacopée européenne, il y a quelques années, ils ont sorti 148 plantes qui sont maintenant en vente libre. Alors ça, il y a beaucoup de plantes aromatiques comme la sarriette, le romarin, le thym, tout ça c'est en vente libre. On a même le droit de...
Ah oui, oui.
Voilà, on a le droit de conseiller aussi sur l'utilisation de ces plantes. ça laisse déjà un grand champ de jeu, quoi. Enfin, d'intéressant, ça lance, ça laisse quand même beaucoup de choses à faire, du champ du possible. Par contre, il y a des plantes comme l'aubépine ou la prêle qui ne sont pas en vente libre. Voilà, donc si vous en vendez, bah, vous exposez peut-être à des représailles.
Donc alors vous, comment...
C'est des plantes qu'on trouve naturellement.
On peut les cueillir, hein. Nous, on fait des cueillettes sauvages.
Mais ils mettent des amandes à la nature quand la nature produit ces plantes-là.
Non, mais c'est pas non plus des plantes qui poussent sous le manteau ou quoi que ce soit.
Non, 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 non. C'est pas de la. Voilà, c'est pas.
Préparations en elles-mêmes. Elles ne savent même pas qu'elles ne sont pas remboursées, c'est qu'elles n'existent plus. La teinture mère de Balotte, qui est une excellente plante pour lutter contre les effets de la ménopause, par exemple, ou la teinture mère de... Je ne sais plus, j'ai appris ça récemment, je me rappelle. Enfin, une plante hyper courante, on n'en fait plus. Parce que pour continuer à faire ces teintures mères, il lui fallu faire des autorisations de mise sur le marché qui coûtent très cher. Donc les laboratoires regardent quelles sont les teintures mères qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Celles qu'ils vendent à, je ne sais pas moi, 50 unités l'année, parce que comme il n'y a plus de médecins qui pratiquent la phytothérapie, ces préparations galéniques ne sont pas prescrites, donc les labos ne les vendent pas, donc ils décident de les abandonner. Donc,
c'est pas une raison pour les enlever.
Je trouve que ce qui serait intelligent, et dans le cadre d'un monde en transition, ou d'une ville en transition, enfin on va dire d'une transition, ce qui serait intelligent, c'est justement de remettre au goût du jour ces savoir-faire et de dire aux gens, après tout, eh bien, prenez des cours de botanique, allez herboriser dans les zones à peu près préservées de notre belle région, Procurez-vous de l'alcool à 90 degrés ou alors d'autres formes alcooliques, parce que l'alcool à 90 degrés n'est plus en vente libre non plus. Bah oui. La seule alcool qu'on trouve, c'est l'alcool pour fruits qui doit titrer
70.
Mais bon, il y a des trucs. 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 Voilà, on peut s'en passer. Et puis, bah, refaites vos teintures mères. Et allez-y, quoi. Moi, j'appelle vraiment la population à se prendre en main à ce sujet.
Faites-le vous-même.
Faites vos teintures mères, faites vos tisanes. Et puis, apprenez aussi à cueillir les plantes. Parce qu'il ne s'agit pas, comme dans certains coins de France, de débarquer à un groupe de 50, de se dire « Waouh, là, génial, il y a un spot de Reine des Prés. Allez hop, on va tout ratiboiser.
Ouais, »
C'est difficile. C'est difficile. C'est pas évident de dire aux gens « Prenez votre santé en main, soignez-vous vous-même. » Vous avez quasiment la capacité de le faire si vraiment vous voulez le faire. Maintenant, il ne s'agit pas de tout ratiboiser dans la nature non plus. Donc, il faut réfléchir à la question et se concerter.
Ouais, des fois, c'est un peu le danger d'orienter les gens sur une plante qui vont aller
faire des radias. Et puis, les plantes méritent vraiment une connaissance approfondie.
J'allais dire, faut pas qu'ils fassent des sauvageons, mais bon.
Voilà. Soignez-vous en mangeant aussi.
Oui.
Soignez-vous en mangeant.
Ouais, vous devenez pas malade en mangeant.
Voilà, devenez pas malade en mangeant.
Je pense aussi, enfin, ça, c'est un des thèmes majeurs du mouvement Ville en Transition. Et je pense que dans la ville de Totnes en Angleterre, ils ont très bien réussi à montrer ça, enfin dans les films que moi je suis jamais allée, mais dans les films qu'on voit, c'est que finalement, la clé de tout ça, est-ce que c'est pas l'alimentation ? Si demain il n'y a plus de pétrole, ou il y a moins de pétrole, qui deviennent vraiment une denrée hyper chère, rarissime donc très chère, comment est-ce que vous croyez que les supermarchés où les gens se ruent par milliers tous les samedis, comment est-ce que vous croyez qu'ils vont être approvisionnés ? Actuellement, ils sont approvisionnés par des camions dans lesquels on met du pétrole. Vous êtes peut-être un peu jeune, mais vous devez vous rappeler. Merci. Vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a eu une grève des transporteurs. Comme par miracle, on ne trouvait plus rien dans les rayons. C'était la panique. Les gens faisaient des achats de sucre. Enfin voilà, on se serait cru retourner de l'eau, voilà, comme si l'eau du robinet chez nous n'était pas potable. Alors j'invite quand même les gens à réfléchir sur demain, on a moins de pétrole, on a moins d'approvisionnement, on va avoir moins de choses diverses à manger. Comment est-ce que vous faites pour être autonome en nourriture ? Est-ce que vous ne trouvez pas que la nourriture est importante ? Est-ce que vous n'avez pas envie dans vos écoles d'exiger de votre conseil régional, de votre conseil départemental, d'exiger pour vos écoles, pour vos gamins, d'avoir une nourriture un peu plus saine et pas avoir des plateaux repas qui repartent à moitié pleins ? Et qu'on jette à la poubelle. Est-ce que ce serait pas un thème de société, messieurs les politiques?
C'est une forme
d'éducation. C'est bientôt les municipales. Je vous invite à ouvrir grand vos esgourdes.
C'est une forme d'éducation du citoyen pour le rendre de nouveau en fait averti déjà à la nature qui fait qu'il déjà existe et avoir un béaba des connaissances des choses qui nous entourent.
Et puis est-ce que
avec
c'est
la conscience qui va avec Et forcément, on arrive après une démarche citoyenne en fait. C'est ça.
Et est-ce que c'est pas un grand plaisir que d'avoir un libre arbitre et une certaine autonomie, franchement.
Moi, je prône la conscientisation interactive. Parce que qui dit éducation voudra dire des maîtres.
Ah oui, alors même si c'est pas tout à fait exact, parce qu'il y a, mais bon, c'est souvent pour les gens aisés, riches quoi. Mais il y a des nouvelles méthodes d'éducation. Justement, on a bien rendu compte qu'ils enlèvent le système d'autorité. Donc il n'y a plus. Et en fait, on essaie de mettre les enfants dans un état ludique, de jeu. Et en fait, par le jeu, ils vont apprendre. Et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir un rapport d'autorité pour l'apprentissage.
Oui, oui.
Et d'ailleurs, il y a même des, mais ce sont des écoles high tech pour. Pour riche, hein, c'est sûr.
Ouais. Je pense que quand Romain disait maître, il ne le disait pas dans un sens hiérarchique. Je pense qu'il faisait un peu plus référence à...
Ah, la soumission à une idée, puis
non.
On suit à
non, non, c'était même pas ça. C'était un peu ce...
Se prendre en main.
Le maître qu'on va... Comme en art martial, par exemple. Un maître qu'on va respecter parce que, justement, il est assez humble et il se place toujours au-dessous de vous quand il vous apprend. Pour moi, c'est ça, un maître.
Ah oui, oui, d'accord, ok. Ouais, oui, vous voulez remettre le maître à son...
Trouver un
rôle qui devrait être. En fait,
oui, je crois. Donc, je crois que le processus révolutionnaire n'est pas achevé. Hein. Il n'est même pas démarré.
Ça n'a pas l'air.
Sémantiquement non plus.
Non, il est endormi.
Et il va falloir se retrousser les manches pour qu'il redémarre.
Et qu'est-ce que vous faites en fait? Est-ce que vous avez à vivre de votre activité?
Oui.
Oui,
oui, oui.
Mmh. Vous faites vivre combien de personnes? Enfin, vous êtes plutôt bien ou c'est ça se développe de mieux en mieux?
Ça se développe, nous sommes dans une grande frugalité. Et il faut savoir aussi qu'il y a énormément de choses à récupérer de ce système. Quand il sera entièrement épuisé, rincé, essoré, il n'y aura peut-être plus grand-chose à récupérer. Mais d'ici là, on aura réinventé des façons de faire.
Oui.
Pour l'instant, il est tellement essoré, le pauvre. Il est tellement en déconfiture que toutes les gouttes qui débordent sont à récupérer. Il y a vraiment énormément de récupération de matériaux, d'énergie, de tout un tas de choses.
Donc, voilà, faut rester optimiste, il y a moyen de faire des choses.
Non, mais même dans aujourd'hui. Même dans le monde sauvage,
bien
dans n'importe
sûr,
quel coin
sûr.
De forêt, dans n'importe quelle bordure, il y a des tas de choses à récupérer qui sont,
ouais.
qui sont là, quoi, qui nous attendent.
On n'a pas le temps parce qu'on ne va pas monter les antennes sans 7 ans, mais on a un petit film là sur Cuba, qui est justement un pays qui est le phare de la permaculture dans le monde.
Alors la permaculture, c'est la culture où on utilise très peu d'eau et on couvre
le sens premier, c'est permanent culture, c'est un terme anglais, quoi. C'est-à-dire culture en boucle, culture en autosuffisance.
L'idée, c'est de recréer en fait l'état d'humus qu'on trouve dans les forêts, d'une terre toujours fertile.
Oui, auto-fertile.
Donc reprendre le système de fonctionnement des forêts.
Ouais, voilà, exactement.
Qui fonctionne depuis toujours sans personne.
Et alors oui, mais bon, c'est après, faut connaître les résultats. Et vous justement, alors c'en est où ces techniques-là?
Eh bien, ça marche très bien. Ça marche très très bien parce que quand nous sommes installés, on est sur une prairie très argileuse, très acide, qui n'avait pas été cultivée depuis très très longtemps, qui avait été pâturée, donc fertilisée, mais pas cultivée. Et comme on n'avait pas de motoculteur ou d'engin mécanique et qu'on voulait surtout pas briser le sol, parce que voilà, ça c'est encore un autre volet de notre discours, mm-hmm. on va peut-être pas y aller, mais ça va nous durer trop longtemps. Mais voilà, on a adopté la méthode de culture en lasagne, c'est-à-dire on a recréé du sol sur le sol.
Okay.
Avec les matériaux qui étaient là présents.
Donc aujourd'hui, vous avez fait cette technique-là.
Oui.
Et toute votre production, elle
oui.
vient de cette technique-là.
Oui.
Donc vous le faites, vous n'apportez pas d'eau.
Non, quasiment.
Vous n'apportez pas d'engrais.
Non, quasiment pas.
Pas d'engrais de synthèse.
Non.
Alors vous apportez quel type d'engrais?
Alors le seul engrais.
Déjection animale.
Ouais. Le seul engrais qu'on apporte.
Les chevaux qui vivent sur place.
Oui.
Ah oui, d'accord. Vous laissez.
On a deux poneys, des poules et bah, c'est tout. Des poneys, des poules qui font un tas de fumier suffisant.
Donc en fait, cette culture nécessite quand même de l'engrais, mais qu'on faisait depuis traditionnellement.
Comme,
donc oui. Apparemment vous faites ça avec le fumier
oui.
de cheval. À peine d'eau, mais pas du tout l'utilisation de l'eau intensive qu'on fait dans
non, pas du tout, on n'a pas besoin.
Et de ce travail-là, de la terre, forcément vous allez quand même, à mon avis, moins produire qu'une une terre d'un producteur conventionnel.
Non, je pense qu'on va plus produire.
Vous produisez plus?
Oui, bien
ça,
sûr.
Ça reste complètement...
Bien sûr, parce que par exemple...
À la surface, le...
Oui, bien sûr, parce qu'on n'a pas de maladie.
Si on voit ce qu'engendre l'agriculture conventionnel ou le maraîchage conventionnel en termes d'émanation de carbone, en termes de consommation
oui.
et tout.
Non, je parlais pas de ça, mais là je suis d'accord,
c'est
justement
brut,
parce que vous êtes à avoir une démarche in fine, mais je parlais du
rendement.
Oui, il y a un rendement, simplement le nombre de carottes qui poussent. Avec ces techniques-là, est-ce qu'il y a un rendement
bien sûr qu'il y a un rendement augmenté. Il y a un rendement augmenté parce que on ne se contente pas de tracer des sillons dans un champ, de tirer des cordeaux, de semer des graines, d'arroser, d'attendre que ça pousse et puis bon, de désherber, d'éclaircir, de sarcler. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça nous pousse d'ailleurs beaucoup de problèmes et ça nous prend beaucoup de temps.
Oui, parce que il n'y a plus les machines adaptées.
Mais ça, c'est beaucoup plus, le rendement est beaucoup plus accru. Alors, on ne fait pas de maraîchage, nous, on fait des plantes. C'est un peu différent aussi. Mais on fait aussi nos légumes pour nous.
Mais la technique marche aussi bien sur les légumes.
Bien sûr que la technique marche. Alors, je vais leur faire un peu de pub parce que ce sont des gens qui font un travail admirable.
Oui, allez-y.
La ferme du Bec-et-Loin, qui est au Bec-et-Loin, a mis en place une étude qui va porté sur plusieurs années. Le but de l'étude, c'est de prouver que sur 1000 m² de terrain en permaculture, on peut faire du maraîchage à deux et en vivre. Vraiment. Moi, j'ai eu le compte-rendu de la deuxième année d'études, le résultat de la deuxième année, et franchement, c'est plus qu'encourageant. C'est plus qu'encourageant. Ils appliquent vraiment les techniques de la permaculture, sans doute plus que nous encore, parce que, bon, peut-être ils ont plus de moyens, ça fait plus longtemps qu'ils sont installés aussi, mais faut pas hésiter non plus à renvoyer les gens vers leur leur travail à eux. On a deux démarches un petit peu différentes, mais pas tant que ça, je pense. Et vraiment, ces gens-là sont en train de prouver. J'ai même vu dans Rustica, qui est quand même pas un journal spécialement d'avant-garde au niveau jardinage, c'est le résultat de cette étude a été publié le mois dernier dans Rustica.
Donc c'est une étude sérieuse.
C'est tout
avec
à fait.
Un protocole.
Elle a été faite en partenariat avec l'INRA. Et oui, voilà, oui, les premiers résultats. Mais oui, c'est vraiment, je sais vraiment.
Alors, redites le nom. Exactement, c'est ça. Redites le nom de cet asso qui essaye de prouver cette méthode.
Alors, c'est la ferme du Bec et Loin. C'est pas une association, c'est une entreprise à
part
entière.
C'est la ferme du Bec et Loin.
C'est la ferme du Bec et Loin.
D'accord.
Donc, vous pouvez tout à fait y aller.
Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce puits d'informations. Hein.
On aurait encore tellement de choses à vous dire.
Et donc, donc c'est les plantes aromatiques et médicinales, les sauvageonnes, et on vous retrouve sur le net.
Non, on n'a pas encore, mais cette année.
Cette année, ça va arriver.
Cette année, c'est en projet.
Vous allez faire un blog ?
Oui, on va faire un blog.
Bonjour, je viens pour le Paris Normandie.
Ah bah ouais, c'est pas nos poches le Paris Normandie.
Comment ?
C'est pas nos poches le Paris Normandie.
Ah, vous ne voulez pas bavarder ?
Bon, pas trop, non.
Bon, très bien.
Je vous remercie, madame, c'est gentil en tout cas.
Merci.
Voilà. Au revoir, madame.
Ah ben, ce qu'on a ?
Il y a un moment donné, il faut savoir choisir. Soit ces gens-là, ils écrivent des choses sensées, claires et nettes, et ils racontent pas de conneries, soit c'est son nom.
Ok.
Très
bien. Bon, bah,
merci beaucoup.
On vous souhaite de garder le cap, en tout cas.
En tout cas,
et bonne continuation.
C'est génial, cette radio.
Merci de
vous. C'est comme ça. C'est cool. Bonne fin de journée. Pardon ?
Principe actif, c'est ça ?
Ouais, exactement, principe actif. Ouais.
Les corps ne l'ont rien
fait. Vous n'êtes pas venu chez moi non plus ?
Non.
Qu'est-ce que c'est que de l'éco-volontariat ?
L'éco-volontariat, c'est le fait de prendre du temps pour aller faire quelque chose pour la nature, de mettre ses bras à profit de la nature. Que ce soit sauver des espèces, pouvoir aller quelque part et expliquer ce que c'est, construire par exemple des nichoirs. Enfin, là, il y a d'ailleurs actuellement une journée qui est organisée par le GON. Le GON, c'est le groupement ornithologique normand. Il faut venir et aider à terrasser des berges pour arracher des mauvaises herbes pour que les oiseaux puissent nicher.
Donc là, là, en fait, ils ont besoin de force brute là.
Ils ont
faut venir
de
avec les pioches. Là, et...
non,
on y
en
va.
Fait, ils fournissent tout.
Ils fournissent le matos.
On arrive le matin, on prend un bateau, on est au milieu de. Là, c'est justement à la réserve de la Grande Noé à Val d'Oreille.
Oui. Ouais, ouais.
On arrive le matin, on est transporté au milieu de la réserve. Voilà.
Ok.
Il faut prendre des pelles, des pioches et tout ça. Et finalement, bosser dur. Mais
ouais.
L'idée, c'est que les oiseaux, dès que ce sera la saison, puissent revenir nidifier.
Et donc, qui est-ce qui gère en fait les gens qui arrivent, tout ça? Comment ça s'organise?
Alors là, c'est le GON qui a organisé une action qui va sur la plateforme de J'agis pour la nature, qui a mis J'ai une action le 1er mars de telle heure à telle heure. Ça coûte 0 euro. Vous êtes accueillis, vous prenez votre pique-nique et on fait ça toute la journée. Et donc,
oui,
mais
oui,
après,
oui.
Faut être
oui,
motivé.
On va pas au Club Med non plus. Quoi.
On va pas au Club Med. C'est clair que faut remonter ses manches et
on se retrouve entre gens avertis quand même.
Exactement. Après, par exemple, des associations comme Appât de Loup, Volontaires pour la Nature, c'est pareil, on peut taper sur Internet. Eux, ils proposent des chantiers d'éco-volontariat en France, dans le monde et dans leur en Rhône-Alpes, parce que c'est là qu'ils sont situés. C'est-à-dire que vous prenez par exemple une semaine et vous allez... Bah, moi, ce que j'ai fait, c'est construire des nichoirs pour les chouettes de Tengman qui sont en danger. Donc, en fait, puisque ce qui se passe, c'est que les arbres, dès qu'ils sont un peu malades, ils sont coupés, les chouettes, elles n'ont plus d'endroit où nidifier et donc elles sont en train de disparaître. Donc, l'idée, c'est de pouvoir en construire, les mettre à 5 ou 10 mètres, enfin, 7 mètres d'altitude sur un arbre, bien placé, etc. et pour pouvoir espérer qu'elles puissent se revenir nicher, en fait.
Tu connaissais, Fred, les éco-volontariats?
Non.
Non,
non, je vois pas non plus.
T'as vu ? Voilà, c'est pour le citoyen qui a envie de faire un peu. C'est un peu de. C'est de l'action concrète en
fait. En fait,
cas,
c'est
là.
Ça. C'est bien beau d'être dans son, dans son chez soi. C'est bien aussi
c'est,
de
c'est
trier
bien beau d'être dans
les déchets.
Sa radio, mais bon,
c'est bien beau d'être dans sa radio, de trier ses déchets
on t'a
et tout
pas
ça.
Vu avec la pioche, hein.
Mais après. Et puis après, là, c'était vraiment du.
Parler à la radio, par contre.
Après, au niveau du GON.
Je fais des baskets de beauté.
Au niveau du GON, c'est une journée. Et puis vraiment, c'est physique. Après, ça vaut le coup. Et puis on rentre chez soi, on est content d'avoir fait quelque chose. Là, c'était un samedi, un dimanche. Enfin,
donc là, concrètement, est-ce qu'il y a une action bientôt à réaliser?
Où est-ce
à qui on s'adresse? Où est-ce qu'on trouve l'info?
En fait, le site J'agis pour la nature,
donc
on
le
tape
site J'agis
département,
pour la nature,
on tape heure, bien sûr, ou 76 si on veut aller un peu plus loin, ou même plus loin si on est motivé. Et là, tout est indiqué, en fait. Donc après, on appelle. Moi, c'est ce que j'avais fait la dernière fois. On appelle, on dit « Ok, je serai là ». Si on est là, si on dit qu'on est là, on y vient, on y va aussi. Après, c'est pas toujours des travaux de forçage, j'ai envie de dire. Ça peut aussi, l'éco-volontariat que j'ai fait cet été.
Faire les nichoirs, c'est pas du... Oui,
c'était
oui,
chouette,
des,
c'était plein de partage avec plein de gens motivés, c'était se bouger. Là tout à l'heure il y a un monsieur qui est passé, il me disait mais moi ça m'intéresserait de faire du ramassage de déchets, comment je fais dans la nature, comment je fais pour fédérer en fait, parce que lui il est tout seul, vous avez très envie, ça se voit. Et moi aussi.
Déchets dans la nature.
Oui,
mais bien sûr. et sans faire appel à une grande surface, attention.
Et sans faire appel à une grande surface. Et ben vous allez sur le site, pardon, je vais y arriver, J'agis pour la nature, vous déposez votre action. On fait ça à tel endroit que j'ai repéré avec plein de saloperies. Hop là, je dis 20 participants ou le nombre, je mets mon numéro de téléphone, vous m'appelez et on fédère, enfin, et on fait une action en fait.
Je veux nettoyer ma cour.
Voilà. Si vous voulez trouver un chantier d'éco-volontariat, vous tapez soit j'agis pour la nature.org, n'est-ce pas, soit Appât de Loup des volontaires pour la nature. Et là, ça vous explique ce qu'est l'éco-volontariat et ça vous explique aussi tout ce qui existe en ce moment. Et là, par exemple, il y avait une action qui allait être faite mais qui ne peut pas être faite parce que c'est au Mali et qu'au Mali, on sait que c'est pas le moment d'y aller. Mais là, on devait partir pour compter les nids de chimpanzés parce que les chimpanzés, par exemple, ne sont pas considérés comme une espèce en voie de disparition. Sauf qu'il n'y a pas de comptage qui a été fait. Donc, on ne peut pas considérer qu'ils sont en voie de disparition parce qu'on ne sait pas combien il y en a.
Ouais.
Donc, l'idée, c'était de faire une expérience sur Princeps, de pouvoir faire déjà un comptage sur 2 semaines là-bas et tous les ans de continuer.
Alors là, bon, là, parce que bon, j'avoue, là, c'est très attirant, voyager, compter les chimpanzés et tout. Mais la personne qui veut faire ça, il faut qu'il mette combien de sous de sa poche pour pouvoir faire une action pareille?
Alors, une action comme avec le GON pour aller terrasser des îlots, zéro. Ensuite, pour aller faire une semaine, par exemple, d'éco-volontariat, là, comme je vous disais, en Vercors, ça coûte 45 euros.
Mm-hmm.
Donc, on est logé dans notre tente au milieu de la forêt et on mange, enfin, là-bas, ils nous fournissent la nourriture, en fait. Donc, local, bio, enfin, c'est super.
Okay.
Pour faire une action, pour aller jusqu'à, par exemple, au Mali, il faut payer son billet d'avion. Et sur place, c'est pareil, tout est pris en charge. Sauf que, faut pas croire qu'on est hébergé au Club Med. Voilà, donc plein d'idées. Il y a tout est à construire et surtout, enfin, c'est intéressant. Ça permet de faire des choses chouettes et de partager et des rencontres. Là-bas, sur le chantier d'éco-volontariat, c'est sûr que tu rencontres des gens qui vont dormir dans la forêt, qui c'est des gens qui te ressemblent finalement quand donc, tu fais ce genre de trucs.
Voilà. Vraiment, donc voilà, c'est être. En fait, il y a un côté aventure.
Mais carrément.
Ah, c'est ça. C'est le plus. C'est le plus de J'agis pour la nature, c'est ce côté un petit peu aventurier. Ouais.
Ne pas rester chez soi, rien faire, rencontrer les autres, et c'est vraiment l'aventure. Attends, aller une semaine dans la forêt pour pioncer, aller construire des nichoirs à chouettes et les monter à 5 ou 10 mètres de haut, c'est l'aventure.
Carrément. Alors, votre prénom ?
Lucie.
Lucie, bah, merci Lucie de nous avoir
merci
présenté. Donc,
merci Lucie de nous avoir
pour la nature.
La prochaine fois, je vous parlerai des toilettes sèches.
Ok, ça marche.
Ah non, c'est moi la spécialiste.
Moi, je suis plus spécialiste.
Et moi, je suis plus spécialiste. T'en as chez toi ?
Alors.
Voilà. Les toilettes sèches, ma deuxième passion après l'éco-volontariat.
Ouais, non, mais okay. Moi, j'ai été volontaire toilettes sèches au Festival Rock.
Non, mais moi, je suis volontaire les bières sur le Festival Rock. Mais après, c'est pas le tout de le faire ponctuellement, il faut le faire tout le temps. Tes manches, si tu dis, ah bah non, mais c'est facile de pousser le bouton et puis d'avoir 6 litres d'eau potable qui tombe dans les égouts.
Comme on s'en rendait compte que les Romains se servaient des eaux usées pour évacuer leurs déchets. C'est un peu plus intelligent de ne pas utiliser l'eau potable bêtement.
Oui mais c'est moins confortable quoi. Donc à un moment donné c'est saoulant et puis vaut mieux appuyer sur un bouton.
C'est ça. Même si je respecte quand même les temple toilettes que font les Japonais avec des lumières et des jets.
Oui tout à fait. Et aussi le must, avoir du papier toilette qui sent. Pêche. Parce que c'est vrai que c'est peut-être pas la radio, mais voilà, je pense que c'est important de sentir
la Commission européenne a fait une étude, on en a parlé l'autre jour, sur la consommation d'eau par les toilettes à l'échelle européenne. Ça, c'est une catastrophe.
Mais bien sûr.
Festival Rock, toilettes sèches.
Festival Rock, toilettes sèches.
300 000 litres d'eau économisée.
Vous êtes bien gentil.
Non, mais c'est énorme. Et en plus, les gens sont contents.
En plus, de l'approvisionnement en bois et de l'évacuation.
Oui, mais les gens sont contents. Les gens m'embrassent.
Franchement, moi j'ai connu des gens qui étaient allés aux toilettes sèches justement dans des festivals et qui se sont dit ah mais oui, mais en fait, parce que quand on en parle comme ça, les gens font ah, c'est une litière pour chat. Oui, et alors mais
moi je m'occupe de l'évacuation.
Ça t'a marqué.
Il faut trouver l'agriculteur du coin qui l'accepte de remettre sur son fumier, etc. Ouais. À chaque fois, c'est j'espère qu'il n'y a pas des seringues dans vos machins.
Ah, ouais. Les clichés, on l'a dans le dur aussi. Je sais pas, moi ça me perturbe un peu qu'il y ait des gens qui n'ont pas de flotte à boire et que nous on chie dans l'eau potable
tous les jours, tirer une chasse d'eau pour les enfants littéralement.
Exactement.
J'envoie ma bouteille à la mer.
Oh, c'est ça.
Ok, pour les belles actions.
Et puis de toute façon à un moment donné on sera obligé d'y venir, donc les gens ils rigolent pour l'instant, mais ça se trouve dans quelques années on pourra plus, franchement.
C'est
5 euros de mètre cube dans le
monde, économique, écologique. Je vais pas parler de la mooncup. Non, allez, je vais pas le faire cette fois.
Vas-y, attaque,
ça
t'intéresse. Moi, je connais la mooncup.
Ah, tu connais la
mooncup,
mais pourquoi?
Parce que j'ai une femme.
des serviettes hygiéniques.
Ouais.
Alors la Moon Cup, ça coûte entre 15 et 30 euros pour 10 ans. Donc c'est quand même écologique, économique. Et donc tu n'utilises aucune protection hygiénique. Donc, parce que souvent les protections hygiéniques, elles finissent dans la mer.
Non, voilà. Attends. C'est un sujet intéressant.
Bien sûr, moi, j'adore, c'est mon sujet de prédilection numéro 3.
Mais, elle est venue chercher sur un sujet derrière.
C'est vrai qu'elle nous a tiré de là. Mais donc comment ça marche?
Alors la Moon Cup, c'est une coupe en silicone. Donc c'est comme un réceptacle en fait. C'est un petit réceptacle. Voilà. Et ça se met quand tu as tes règles. Voilà, quand tu es une fille, souvent. Tu peux essayer, mais ça va être un peu dur pour toi. Mais bon, donc ça coûte, comme je disais, ça coûte entre 15 et 30 euros. Ça, c'est pour 10 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas vendu en supermarché. On se demande pourquoi la Moon Cup, Nati.
Alors donc, ça se trouve
dans les biocops, ça se trouve, enfin pardon, dans les, ça se trouve sur internet, ça se trouve sur les bons magasins écologiques en fait. Et c'est pas vendu en grande surface. La question c'est pourquoi? Mais parce que ça ruinerait tout ce qui est tampons, serviettes, etc.
Qui produit la Moon Cup, d'où ça vient? Enfin, ça n'a rien à voir avec les éco-volontariats. Hein,
rien à voir. Qui produit la Moon Cup? Il faudrait qu'on trouve Sarah, elle saura exactement d'où vient la Moon Cup. Mais Sarah, elle va arriver. Sarah, la Moon Cup, s'il te plaît.
Sarah.
Je voudrais faire un retour historique sur la Moon Cup.
Ouais, alors, on va faire une spéciale finalement.
Donc c'est un produit, on va dire, pour récupérer les flux menstruels qui étaient utilisés et produits, surtout fabriqués largement jusque dans les années 30. La production s'est arrêtée avec, à la fin de la Première Guerre mondiale et donc avant la Deuxième Guerre mondiale, apparemment, elle a carrément été stoppée. Et c'était produit en Angleterre et aux États-Unis. Une fois que la guerre a été finie, ils se sont posé la question de relancer la production, mais le capitalisme, le début des 30 glorieuses étant en train de mettre en place un autre système de consommation dans le monde post-guerre, ils se sont dit, mais pourquoi produire des outils, des objets qui vont être utilisés pendant 10 ans alors qu'on pourrait faire vendre des choses qui sont à racheter tous les mois? Donc, ils ont stoppé les usines de production et ils se sont mis à inventer les tampax.
Pardon, c'est notre docteur S. Munker. Voilà.
Mais à l'époque, c'était pas en silicone.
Ouais, ça devait être en caoutchouc naturel, j'imagine.
Ouais, ok.
Voilà. Et ensuite, bah, bien sûr, sont les mouvements un peu hippies, écologistes, féministes, etc., qui ont relancé ça pour être en autonomie et surtout ne pas mettre des dioxines dans son corps et polluer la nature, les rivières, etc. Et puis là, maintenant, la production semble vraiment repartir parce que la dernière que j'ai achetée vient d'Allemagne même.
D'accord.
Donc, bah, il suffit de taper Moon Cup ou Keeper, K-E-E-P-E-R, qui vient de anglais, qui veut dire garder. Garder, sur internet, et puis voilà.
D'accord, donc on trouve différents modèles, parce que puisque vous en avez acheté, vous avez mené un nouvel. Alors que normalement ça dure 10 ans.
Mais non,
alors ça dépend de la taille du vagin.
Si, oui, c'est déjà.
Alors.
Si t'as plus de 30 ans ou si t'as moins de 30 ans, si t'as eu des enfants ou si t'as pas eu d'enfants.
On imagine qu'après avoir eu des enfants, ça doit être plus grand.
N'empêche que toi qui as plus de 30 ans, t'as la même que quelqu'un qui a eu des enfants.
Je suis grande.
C'est physiologiquement. Mais on ne parle pas de ces choses-là.
Et ce n'est pas du tout gênant d'en parler.
Voilà, contrairement à ce que tu disais, c'est du silicone
ou du caoutchouc naturel, du latex naturel. Et en fait, on change le rapport à son corps quand on utilise ça parce qu'on se rend compte que on a l'impression, quand on met des tampons et des serviettes, que c'est l'hémorragie interne. Parce qu'on voit donc des trucs blancs tachés de rouge, on se dit, ça renforce l'idée que c'est une maladie et un handicap. Alors que quand on voit ça, c'est totalement dédramatisant, c'est comme un gros dé à coudre qui est rempli, on le vide, on se dit, bah finalement, c'est pas beaucoup, c'est pas du tout une hémorragie, on le vide, on le remet, c'est parfait. Franchement, on se rend compte que c'est rien du tout.
Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on a des pubs pour les flux menstruels étant plus jolis que règles à la radio, n'est-ce pas, règles, c'est le liquide est bleu. Alors ça, c'est vraiment fantastique, c'est-à-dire que les serviettes,
parce
machin,
le
à la sphaigne naturelle, c'est bleu. Non,
odeur fleur des bois.
C'est ça, odeur fleur des bois, comme le PQ qui sent la pêche.
Voilà,
on est toujours sur les mêmes sujets, en fait.
On a terminé la boucle. Ouais, carrément.
La boucle est bouclée, exactement.
Bah, merci beaucoup, Lucie.
Et mais de rien.
Sarah, merci à vous pour votre histoire de la Moon Cup.
Et comme quoi, la transition mène à tout, quand même.
Et la transition mène à tout.
Alors, c'est quoi mène à tout?
Plein de sujets divers et variés. Je pensais pas finir cette journée.
C'était la journée, sur nos interviews, on a terminé sur la Moon Cup.
On pourrait faire une émission entière dessus, on peut en parler pendant des heures. D'ailleurs, ça nous arrive beaucoup.
Bah, c'est sympa. Bah, tiens, si vous pouvez faire un petit au revoir aux auditeurs de Principe Actif.
Bah, alors, moi, je vous inviterai à aller sur YouTube et à taper Moon Cup Battle. Et là,
en
c'est.
En français,
en français.
Ouais,
bah, en français. Et donc, il y a un match de rap, une bataille de rap. C'est Tampon versus Moon Cup. C'est très drôle en version américaine. Et donc, deux filles qui s'affrontent dans des toilettes en incarnant chacune l'un des outils. C'est vraiment très drôle.
Ok, Moon Cup Battle sur YouTube. Ok, ça marche.
On
merci Perfo.
On mettra le lien.
On mettra le lien.
On vous l'enverra d'ailleurs. Ouais. Merci. Merci à vous.
Allez, merci à vous. Allez, bonne journée.
C'était un air de vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif.